Philosophie première, Père Marie-Dominique Philippe, le 18 mars 1998 à Saint-Jean-d'Arc.
Pour que vous voyez mieux la démarche qu'on fait au point de vue de l'induction. Propre. Ceci se comprend Et ça, c'est très intéressant pour bien comprendre que cette fameuse, ce fameux problème de mystes scolastiques, de la distinction entre l'essence et l'existence, pour Aristote, c'est un problème qui demande d'être dépassé par la découverte de l'acte et de la puissance. Ils sont au-dessus, au niveau de ce qui est. C'est comme une conclusion, si vous voulez, cette distinction. On le verra ensuite. Mais c'est intéressant de voir que tout de suite, Aristote dépasse cela. Et pour comprendre pourquoi Thomas d'Aquin n'a pas suivi Avicenne, c'est que pour Avicenne, l'essence est la première chose qu'on voit. Parce que les formes en soi sont des essences. Et ce n'est pas ça qui achève. C'est pour ça que ce petit début d'Aristote est sur le chapitre 6 du livre d'État est très intéressant pour voir comment Thomas d'Aquin et pourquoi Thomas d'Aquin n'a pas suivi Avicenne. L'acte et l'existence. C'est Toinaine d'une chose, non pas de cette manière que nous appelons en puissance. Par exemple, nous disons qu'Hermès est en puissance dans le bois, la moitié dans le tout, parce qu'elle pourrait être retranchée. Nous disons aussi que celui qui possède la science et ne contemple pas bien, et ne contemple pas, bien qu'il en soit capable, est en puissance. Quand vous avez acquis l'habitus de science, vous êtes capable d'exercer cet habitus. Mais l'habitus comme tel n'est pas l'acte. Il demeure en puissance par rapport à l'acte, qui est l'opération vitale de penser scientifiquement. Mais ainsi que nous disons en acte, ce que nous voulons dire deviendra évident. Alors c'est ça qui est important à souligner. Ce que nous voulons dire deviendra évident au moyen d'une induction à partir de cas particuliers, donc d'expériences. Il ne faut pas chercher à tout définir. Dès qu'on est du côté de la causalité finale, on est au-delà du Toinaine qui, lui, est l'objet de la définition. Aristote-là a très fort conscience qu'il y a un au-delà de la définition. Ce sera la découverte de l'être en acte, donc de la fin. Vous voyez, la scolastique décadente cherche en premier lieu à définir. Je me souviens d'un ancien professeur de philosophie en matière secondaire, mais qui quand même enseignait la philo, aux examens, c'était toujours là, la définition. Peu importe que vous ayez compris ou pas compris, il fallait donner la définition. Quand on voit la définition de l'homme, animal raisonnable, qu'est-ce que c'est que cette définition? Est-ce que c'est une définition métaphysique ou logique? La définition pour la scolastique qui est d'ordre logique, qui se celui qui est séparé de la matière à la matière, et ce qui est élaboré à ce qui ne l'est pas. L'acte, que l'acte soit déterminé par l'une des parties de cette opposition et le possible par l'autre. Donc, voyez, cette induction qu'Aristote montre à partir de cas particuliers, donc d'expérience. Nous avons l'expérience de ces différents cas. Et voyez, ce qu'Aristote montre, c'est que ces cas particuliers, ces expériences, sont prises dans les différents domaines de la philosophie. Alors, notez-les, parce que ça c'est important. Il faut aussi savoir saisir l'analogue dans une vue synoptique. L'ensemble.
Normalement,
celui qui voit, celui qui peut voir, ce qui est séparé de la matière, ce qui est séparé de la matière, à la matière, séparé de la matière, c'est le nous, séparé. L'intelligence et l'acte d'intelligence parfait, c'est ce que je vous dis, c'est vrai. Et l'intelligence là connaît quelque chose qui est séparé de la matière. C'est sûr. Je vous dis que c'est vrai de dire que l'homme est un animal générique. Et la raison, différence spécifique, c'est quelque chose de séparé. Je connais, j'ai l'expérience de l'universel, du genre et de la différence spécifique. Ce qui est séparé de la matière à la matière. La matière, l'homme, Pierre, il a un corps. Il n'est pas séparé de la matière. Le corps ne peut pas se séparer de la matière. Élaboré, c'est-à-dire celui qui est parfait, achevé, l'œuvre parfaite, à ceux qui ne l'est pas. Je vous montre une excuse. On se demande encore d'être perfectionné. Et faire dernier, ah voilà, la maquette parfaite. Exactement ça. Élaboré, quelque chose de complètement élaboré. À ce qui ne l'est pas. Alors, le regard synthétique de ces différents analogués. Parce que, entre tous ces cas particuliers, il y a quelque chose de commun. Là, c'est là. Le métaxu. Qu'est-ce qu'il y a de commun? Ce qu'il y a de commun, c'est à l'égard de l'exercice dans le travail, à l'égard de ce qui est élaboré, à l'égard de ce qui est pensé, défini. Il y a un ordre. Je suis éveillé. Donne la signification au sommeil. Le sommeil, l'homme qui dort, est ordonné à l'homme qui est éveillé. L'homme qui bâtit finalise l'homme qui est capable de bâtir. L'homme qui voit est celui qui attire l'homme qui peut voir. Donc je vois que dans tous ces états, ces cas particuliers que j'expérimente, mais j'expérimente l'acte, ce qui est parfait. Ce que j'expérimente en premier lieu, c'est d'être éveillé. Et par l'être éveillé, j'expérimente ce qui dort. C'est sûr. Puisque vous n'avez l'expérience de dormir que par les songes, par les cauchemars, les rêves. Les rêves, c'est une situation intermédiaire entre celui qui est éveillé et celui qui dort, et quelquefois le rêve devient tellement puissant qu'on vit dans le rêve. Les somnambules, ils sont dans un rêve. Et je voyais un médecin qui s'occupe de ça dans un hôpital. Et qu'il disait que ça se multiplie beaucoup. C'est curieux. Cette espèce d'état intermédiaire. On cherche beaucoup de savoir ce que c'est. C'est l'emprise de l'imaginaire qui est tellement fort. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'après un très gros choc, le stress, parce que ça fait partie mal de dormir quand on est très fatigué. Alors j'ai besoin de recharger mes accus. Alors très bien, on reconnaît ça, les limites. Mais autrement, quand on est en pleine santé, on dirait que c'est de la paresse. Oh, c'est pas de la paresse de dormir. Quand c'est, je vais le dire, légitime. Donc vous voyez, tous ces cas ont quelque chose d'analogue. La cité, il y a quelque chose d'analogue. Donc quelque chose, il y a quelque chose de commun. Un tikoinon a quelque chose de commun dans ces différents états. Je me pose la question, qu'est-ce que ça signifie ça profondément? Quel est cet ordre qui existe entre ces deux états? C'est toujours quelque chose de semblable. Et c'est bien au niveau de l'être, parce que c'est à partir de l'expérience. Et c'est dans les différents domaines. Le domaine de la vie végétative. Le domaine des sensations, le domaine de l'intelligence pratique, le domaine des distinctions que j'ai faites en philosophie entre philosophie du vivant, ce qui est séparé de la matière, ce qui est lié à la matière. Qu'est-ce qui, donc là, l'ordre du devenir, et au-delà de l'ordre du devenir, lors de la contemplation. Celui qui contemple et celui qui peut contempler. Différents états. Donc, cela montre que dans l'être, au-delà de cette diversité, il y a ces deux états. Un état de ce qui est en acte et un état de ce qui est possible. Possible d'être. Et j'interroge pourquoi ces deux états. Je ne dis pas comment ces deux états, mais pourquoi ces deux états. Un état de ce qui est l'achevé. Le parfait. Donc, qui finalise. Et l'état de ce qui est finalisé, qui est ordonné. Et donc, par là, je me pose la question. Qu'est-ce que cela signifie, ces différences? Ces différentes cas, ces différentes ordinations, ces différents ordres. Je passe à ce moment-là de l'expérience impliquant le jugement d'existence, ces différentes expériences du réel, de ce qui est, de mes différentes activités ou des différentes choses que je constate dans la nature. Je me pose la question, qu'est-ce qui fait qu'on retrouve cela? Comment cette unité, ce quelque chose de commun dans ces différents états, ce quelque chose de commun dans ces différents états, l'être en acte et l'être en puissance, ce par quoi la puissance est finalisée, est ordonnée, et ce par quoi l'être en puissance, le possible est ordonné, c'est l'acte qui est fin. Je passe de la diversité à ce qui explique le tikoinon, ce qui est commun dans cette diversité. saisissent quelque chose de l'acte. Un poyonti. Le quelque chose de l'acte, c'est je réveillais. Le quelque chose de l'acte, je travaille. Je bâtis la maison. C'est quelque chose de l'acte. Le quelque chose de l'acte, c'est que je vois. Alors que j'avais les yeux fermés. Le quelque chose de l'acte, c'est que je pouvais continuer de dormir. Et non, je me réveille. Et rien n'est changé du côté quantitatif. Il y a quelque chose de nouveau qui n'est pas d'ordre quantitatif, qui est de l'ordre de l'acte, de la fin. Alors, c'est cela qui unifie. Une induction complexe, parce que je n'expérimente pas directement l'acte. Je saisis d'abord la complexité de deux états, l'un ordonné à l'autre, l'un imparfait vers le parfait. Je pourrais multiplier ça, toutes mes expériences. Qui s'impose à moi. Et je veux bien voir que ça s'impose à moi. Parce que si je fais l'inverse, je vois que ça ne colle pas. Je suis éveillé pour dormir. Voilà comment vous vous définissez. Comment on va, qu'est-ce qu'on va dire, espèce de paresseux. Jusqu'ici, dans ma vie, j'ai toujours été éveillé pour bien dormir. Parce que je trouve ça terriblement terrible. Je trouve ça terriblement terrible de ne pas pouvoir m'endormir. C'est vrai, c'est un cauchemar, ça. Des gens très fatigués n'arrivent plus à dormir. Alors, pendant la journée, on est éveillé le mieux possible pour pouvoir dormir le soir. Hein ? Drôle de finalité. Je construis je construis pour acquérir un habitus. Tiens, tiens. Mais l'habitus, si je m'en sers jamais, ça ne sert à rien. Je veux dire, ça ne sert à rien. Vous avez des diplômes et vous ne vous en servez pas. Le chômage. On n'a pas acquis des diplômes pour le chômage. Et c'est ce qui se présente actuellement. Ils ont le titre de médecin. Le diplôme. Ils ouvrent un cabinet, pas de malade. Mais il y en a trop. Trop de médecins, pas assez de malades. Parce qu'il y a les soucis. Vous voyez, comme déséquilibre. On en arrive là. C'est pour ça qu'on a tellement de peine de saisir la finalité. Parce qu'on a constamment ces expériences du chômage. On a constamment ces expériences qu'on n'arrive pas à dormir. C'est pour ça que le premier conseil que je donne toujours à un père maître, demandez au novice s'il dort bien. S'il dort tout de suite. Tant qu'il dort, ça va. Le jour où il n'arrive plus à dormir, oh, il ne découvre plus la finalité. C'est embêtant. Il retombe dans le conditionnement. Parce qu'au fond, le possible, c'est là le conditionnement. Vous voyez, c'est capital ce petit passage d'Aristote. Et ceci, c'est pour dépasser la puissance. J'ai la capacité de voir. Mais je suis dans une chambre noire. la possibilité de d'illuminer la nuit de ma chambre. Je me suis endormi, j'étais très fatigué, je me suis endormi sur ma table de travail, la nuit est arrivée, je me réveille, où est-ce que je suis? Ah, sur mon fauteuil, oui, c'est bien, c'est anormal, d'habitude je ne me réveille pas sur mon fauteuil. Mais le passage de la puissance à l'acte, sans intention, ce n'est pas le principe propre, c'est ce que j'expérimente, ceci est l'acte de cette réalité, mais ce n'est pas le principe, mais j'expérimente l'acte dans l'exercice. J'ouvre mes yeux, j'ai l'expérience de l'acte, de la vision est un acte. Je mange, c'est un acte. Pour le pain que je mange, puisque le pain est un aliment qui est fait pour être mangé, surtout des petits pains frais, quand ils sont rassis, ils ont attendu trop longtemps dans le possible. Et ils sont restés alors à se durcir. Oui, le possible qui n'est pas actué durcit. C'est curieux, ça. D'expérience curieuse. Et ça va jusque dans ceux qui n'ont pas de quoi vivre. Le possible durcit. C'est pour ça que ça me faisait toujours mal, hein, quand je voyais en Suisse, parce que c'est action printemps, action carême, action. C'est pour ceux qui peuvent acheter tout ce qui n'a pas été vendu pendant l'hiver, pour la nouvelle mode. Il n'y a que ceux qui ont un peu de fortune qui peuvent faire des provisions. Les autres, non. C'est la définition du pauvre, ça. Et qui ne peut pas faire de réserve. Alors, s'il a une finalité supérieure, c'est merveilleux. Mais s'il n'a pas de finalité supérieure, ne pas avoir de provision durcit. Parce que c'est l'anxiété. Et l'anxiété durcit. C'est très important, voyez, ce que donne ici Aristote. J'aurais dû commencer par ça. Mais quand je vois ça, je me dis, il y a peut-être une possibilité d'aller plus loin qu'Aristote. Aristote est en face de Platon. Et donc, il doit arriver à dépasser le possible. C'est pas commode. Quand on a tellement exalté la puissance, la dynamis. Alors Aristote revient tout simplement, parce que Platon ne dormait pas. Platon n'était pas éduqué. Il avait la réminiscence. Il avait le réveil matin tout le temps là pour la réminiscence. Il avait les formes en lui, les formes idéales, les formes en soi, qui étaient présentes. Il n'avait pas à les acquérir. Il était comme un dieu. Il était comme un ange. Il n'avait pas à acquérir. Il n'avait à se rappeler. En face de ça, Aristote montre que le possible est un état. Et que le possible est tout le temps là. Et que même le possible est antérieur à l'acte, selon la génétique. Mais je ne peux déceler le possible que par l'acte. Voilà la grande découverte d'Aristote. Alors je comprends qu'il prend une induction synoptique impliquant l'analogie de quelque chose de commun dans ces différents états pour découvrir l'acte comme principe, comme fin. comprends ça. Je me pose la question. Est-ce qu'au fond, ne trouvons-nous pas la possibilité, puisqu'Aristote a donné deux mots, l'entelecheia, l'energeia, il a donné deux mots, qui ont été traduits par acte, qui ont été traduits par la scolastique, acte second, acte premier. N'y a-t-il pas quelque chose d'analogue avec substance première, substance seconde, substance première pierre, substance seconde homme? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'analogue qui doit nous permettre de mieux saisir cette induction? Depuis longtemps, j'y pense. Il n'y a que cette année-ci où j'ai osé la donner. Je comprends que c'est très difficile à saisir. Quand vous aurez réfléchi là-dessus pendant 20 ans, vous comprendrez. Je vous donne une piste aérienne. Et c'est vrai, Aristote a donné ces deux exemples. Alors, je vois pour la substance, l'induction de la substance, l'induction de la substance comme principe. Je vois qu'Aristote a découvert le totinainaine, c'est-à-dire l'intelligibilité de la substance. Ces deux états, la substance dans la pensée, totinainaine, la substance dans sa réalité, le sujet. Il y a quelque chose de semblable, il y a le même mot, substance. Il y a le même mot, mais en deux significations totalement différentes. La substance dans ma pensée, la substance dans la réalité. Et en regardant, qu'est-ce qui les unit, qu'est-ce qui les différencie, je découvre la substance principe. Parce que des deux côtés, il y a quelque chose qui est premier. Le premier dans l'intelligibilité. Ce qui est pensée. Le premier dans la réalité existante, la substance sujet. Ces deux premiers qui regardent l'intelligibilité et qui regardent la réalité existante m'obligent de poser un premier qui soit principe. J'ai la substance qui est le principe dans l'ordre des déterminations, dans l'ordre de la recherche de la forme et de la cause formelle. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'analogue entre les deux mots entelecheia Energeia? Entelecheia, c'est moi-même dans ma volonté qui atteint la fin et qui va cette joie de le contempler qui m'abattue. Et Nergaïa, dans l'ordre de la fin, je vois quelque chose d'analogue. Et ce qui m'étonne, c'est que des deux côtés, j'ai le mot « clé ». Je suis éveillé, je dors. exactement comme il y a un ordre entre Entelegeia et Energeia. Ma contemplation est vraie dans la mesure où elle est tout entière ordonnée à la réalité qui est et qui me finalise. Mon amitié est vraie dans la mesure où je suis tout entier tourné vers l'ami. Autrement, je le possède et je suis dans la puissance. Et je retombe à Platon. Et Platon se frotte les mains. Vous voyez, j'ai raison. Tandis que la véritable amitié, c'est lorsque, justement, finalisé par l'ami. Energeia. Voyez, alors, je crois que il faut commencer, même pédagogiquement, par ce qu'il y a de plus net et qui exige un effort, évidemment. Et quand on a fait cet effort, on se dit, ah, je reviens à la manière dont progressivement je vais saisir cela. J'espère que ça vous aide à comprendre. Reprenez ce passage d'Aristote, méditez-le métaphysiquement, et puis regardez dans Aristote cette chose étonnante, Energeia, Entelegeia, les mots, les significations, indépendamment de l'induction. C'est deux choses que je constate dès que j'aime. Dès que j'aime. Je réfléchis à l'amour que j'ai pour mon ami. Si je reste uniquement là-dessus, ça veut dire que mon ami n'est pas pour moi. Et que c'est mon amour pour mon ami qui est le principal. Mais cette distinction qu'on faisait étant étudiant au seul choix, il y a les professeurs qui aiment les étudiants, il y a les professeurs qui aiment leurs cours. Entelegeia, Energeia. Oui, et reprenez ça dans votre vie, d'un excellent examen de conscience métaphysique.